France Inter, 8h. Le journal, Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour à tous. Dans ce journal, la hausse spectaculaire des actes antisémites en France, plus 74% en 2018. La politique avec la démission d'Ismaël Emelien, conseiller spécial d'Emmanuel Macron et fidèle de la première heure. À l'étranger, l'ouverture à Madrid du procès de 12 indépendantistes catalans pour rébellion et tentative de sécession. Un grand absent, Carles Puigdemont, qui a fui en Belgique. En Syrie, Daesh résiste dans son dernier réduit, 16 morts parmi les civils. Quel impact pour le futur terminal de Roissy, un projet colossal, 40 millions de passagers supplémentaires par an à l'horizon 2037. La fronde des riverains s'organise, la concertation démarre aujourd'hui. Et puis cette nouvelle étape de la réforme de la santé voulue par le chef de l'État, hôpitaux de proximité, numerus clausus, présentée demain au Conseil des ministres. On en parle avec votre invité Nicolas.
Oui, il s'agit d'Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé. Elle est l'invitée du grand entretien de la matinale. Amis auditeurs, appelez-nous 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application France Inter, voilà.
Jusqu'à la nausée, ou quand la haine des Juifs s'étale sur les murs de la cité. Le portrait de Simone Veil barré d'une croix gammée, un tag Juden écrit en lettres jaunes sur la vitrine d'un restaurant à Paris, ou encore l'arbre en mémoire d'Ilan Halimi, scié dans l'Essonne. Les actes antisémites se multiplient ces dernières semaines, en hausse de 74% sur l'année 2018 selon le ministre de l'Intérieur. Alors d'Internet au mouvement des Gilets jaunes, des universités aux cités de banlieue, le phénomène s'étend et prospère, des paroles haineuses et décomplexé, Yann Galli.
Des insultes, des menaces, des tags et des graffitis, mais aussi des agressions physiques ou des homicides. 541 actes antisémites ont été recensés l'an passé dans notre pays. Cette haine anti-juive, de plus en plus décomplexée et insidieuse, semble se banaliser. Elle s'est même accentuée ces dernières semaines avec le mouvement des Gilets jaunes, selon le gouvernement. D'où l'inquiétude de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur.
L'antisémitisme se répand comme un poison, comme un fiel. Il attaque, il pourrit les esprits, il assassine. L'antisémitisme fait mal. Parce qu'en attaquant un culte, en attaquant la mémoire de Simone Veil, la mémoire d'Ilan Halimi, c'est la République que l'on attaque.
Cet antisémitisme aux multiples visages prospère notamment sur les réseaux sociaux avec de nombreux commentaires haineux et des milliers de vidéos qui reprennent la théorie du complot. Frédéric Potier, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, était l'invité de France Inter ce matin.
Moi, j'y vois la résurgence d'une extrême droite violente, d'une extrême droite virulente sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais qui aujourd'hui n'hésite plus à passer à l'acte. Et quand je dis passer à l'acte, c'est dans la rue, c'est sur des pancartes, c'est sur des banderoles. Je crois que ça explique une très grosse partie de ces actes. Parfois, les choses sont d'ailleurs assez signées. Quand sur le portrait de Simone Veil, vous avez des croix gammées, je crois qu'il n'y a pas tellement beaucoup de doutes sur les auteurs de ce type de pratique.
Et ce phénomène n'est pas propre à la France. On le retrouve dans d'autres pays européens, comme l'Italie et la Hongrie, et même aux États-Unis où les actes antisémites sont également en hausse.
Et Yann Galik, haine des Juifs, haine de la démocratie. Depuis le début de la crise des Gilets jaunes, on enregistre plus de 80 dégradations de permanence parlementaire. Maintenant, ce sont de plus en plus les domiciles et les élus, et les proches des élus qui sont visés. Des faits qui n'épargnent pas les élus des petites localités, comme dans ce village breton de Calanhel dans les Côtes d'Armor, à une demi-heure de route de Motreff, où la maison de Richard Ferrand a failli être incendiée. Les 230 habitants se sont réveillés dimanche matin avec des séries de tags injurieux sur fond de revendications politiques. Le maire et ses administrés n'en reviennent toujours pas. C'est le reportage de Delphine Evenou.
Une église, une école, des maisons de part et d'autre de l'unique rue du village. À l'entrée, la mairie, le crépi de la façade vient d'être abîmé par le Karcher.
Oui, on voit quelques lettres qui apparaissent encore.
On devine ISF.
C'est ça, c'est celui-là, c'est le mot ISF.
Cyril Jobic, le maire.
Donc, au-dessus, c'était marqué RIC et en dessous, c'était marqué les élus tous pourris.
Et sur sa maison, ce jeune patron d'une entreprise d'aide à domicile a découvert dimanche matin une autre inscription. Collabo, LREM égale corruption.
Ah bah c'est incompréhensible, hein, totalement.
Cyril Jobic a porté plainte.
Voilà, on se demande, bah, c'est quoi la prochaine étape aussi Non, non, là, ça va loin.
Il reçoit le soutien des habitants.
Oh, c'est affreux, t'as vu, toi ? Lui, tout pourri.
On met tout le monde dans le même sac, malheureusement.
Ouais, non, tu ne méritais pas ça.
Au bout de la rue, deux hommes, plus taiseux, ils ont leur petite idée sur les tagueurs.
Moi, je vois ça plus de gilets jaunes.
Son gilet jaune, Anne-Sophie, 41 ans, le porte fièrement.
Depuis le 17 novembre.
Elle tient un rond-point tous les week-ends à quelques kilomètres et elle est très remontée.
On restera pacifique, on est un groupe plus que pacifique. Et là, je trouve inadmissible d'avoir fait ça parce que ça discrédibilise notre mouvement. Je suis persuadée que ça ne vient pas forcément des gilets jaunes.
Vendredi soir, un grand débat est organisé dans le canton. Anne-Sophie ira, le maire Cyril Jobic aussi, et tous les deux se parleront, comme ils disent l'avoir déjà fait très cordialement lors d'une première réunion la semaine dernière.
Delphine Evenou, dans le village breton de Calanhel, dans les Côtes d'Armor. C'était l'une des boîtes à idées du chef de l'État. L'un de ses plus proches collaborateurs, Ismaël Emelien, le conseiller spécial du président, stratège en chef âgé de 31 ans, il annonce son départ de l'Élysée. Ismaël Emelien, mis en cause dans l'affaire Benalla, justifie sa démission en raison de la prochaine parution d'un livre, sachant que le chef de l'État a interdit à ses conseillers de publier pendant qu'ils sont en poste à l'Élysée. Ismaël Emelien est le second membre de la garde rapprochée d'Emmanuel Macron, qui était l'Élysée depuis le début de l'année, Cyril Graziani.
Oui, et après, Sylvain Faure, la plume. Et vous vous souvenez de cette image de ces quelques proches d'Emmanuel Macron défilant sur le tapis rouge le jour de son investiture? Eh bien, de tous ceux qui l'ont accompagné à l'Élysée, il n'en reste qu'une auprès de lui, Sibeth Ndiaye. Ismaël Emelien, lui, que l'on disait invisible, discret depuis 20 mois, n'aura pris finalement la lumière que pour annoncer son départ. Emelien, le geek. Emelien, devenu pour ses ennemis au sein du palais, le leader de, je cite, la secte. On lui prêtait, beaucoup moins depuis quelques mois, une énorme influence sur le président. Le pognon de dingue, le premier de cordée par exemple, c'est lui. Il partirait, justifie-t-il, pour écrire un livre, ce qui selon lui n'est pas compatible avec le silence auquel il s'était astreint. Mon départ correspond à une nouvelle étape de mon engagement, poursuit-il dans le point. Sauf que son départ coïncide aussi avec l'apparition de son nom dans le dossier Benalla, soupçonné par les enquêteurs d'être celui qui aurait réceptionné les fameuses bandes de vidéosurveillance contenant les images des violences du 1er mai, voire même de les avoir diffusés sur les réseaux sociaux.
Alors Cyril, derrière tous ces départs, que faut-il comprendre? Des départs subis ou voulus?
Alors comme Sylvain Faure, Ismaël Emelien orchestre son départ, chacun pour soi, grogne un ténor de la majorité. Mais depuis plusieurs semaines, Emmanuel Macron avait acté qu'un changement profond de ses équipes était nécessaire. Début janvier, pour lui, Emelien devait partir, surtout si l'affaire Benalla venait à le rattraper. Et comme l'a théorisé un proche du chef de l'État, souvent les équipes pour conquérir le pouvoir, ne sont pas les plus aptes à l'exercice de ce pouvoir.
Cyril Graziani. Alexandre Benalla, le feuilleton continue. On est loin du jeune homme de 27 ans chargé de la sécurité du président. Selon une nouvelle enquête de Mediapart, Alexandre Benalla a été, pendant et après son passage à l'Élysée, l'architecte d'un contrat de sécurité avec un proche de Vladimir Poutine, soupçonné de liens mafieux. Il a également fait affaire avec un autre oligarque russe. En tout, ses contrats s'élèvent à 2 200 000 euros. Une partie des fonds a été perçu au Maroc. Et pendant ce temps, Alexandre Benalla coule des jours paisibles au Maroc. Mediapart a récupéré une photo où Benalla prend du bon temps dans un cabaret de Marrakech.
Et c'est sans doute 8h08, l'un des procès les plus importants de l'histoire démocratique de l'Espagne.
Un procès hors normes s'ouvre aujourd'hui à Madrid. 12 responsables politiques indépendantistes catalans sont jugés pour leur rôle dans la tentative de sécession à l'automne 2017. Un grand absent cependant, l'ancien président catalan, Carles Puigdemont. Il a fui en Belgique pour échapper aux poursuites pour rébellion qui pourrait valoir jusqu'à 25 ans de prison aux accusés. Le leader catalan vit à une quinzaine de kilomètres de Bruxelles, à Waterloo, d'où il continue à tirer les ficelles de la politique catalane. Angélique Boin.
La maison est cossue et bien gardée, caméras de vidéosurveillance et panneaux défense d'entrée. Deux mâts sur le côté accueillent pour les grandes occasions les drapeaux catalans et européens. L'homme est assez discret, raconte Yves, le livreur de journaux, mais sa présence ici ne passe pas inaperçue. Il a ses fans et ses détracteurs.
Et un truc amusant, c'est que là-bas, un peu plus loin dans la rue, il y a quelqu'un qui depuis lors a mis un grand drapeau espagnol sur sa façade. Mais sinon, on croise régulièrement des partisans de l'indépendance. Il y en a même une fois qui m'ont demandé si je pouvais les prendre en photo devant la maison. Donc, c'est un peu un pèlerinage aussi pour une série de Barcelonais.
C'est au rez-de-chaussée transformé en salle de travail que Carles Puigdemont reçoit beaucoup. Son dauphin, Quim Torra, actuel président indépendantiste de la Catalogne, vient y prendre conseil. En octobre, tous deux ont lancé un nouveau mouvement, la Crida, l'appel, pour tenter de rassembler les séparatistes catalans. Autre combat, détaillé au micro de nos confrères de la RTBF, celui pour l'autodétermination des peuples. Puigdemont voyage beaucoup et fait souvent salle comble.
Parcourir l'Europe pour m'exprimer. C'est ça que j'ai finalement trouvé en vivant au centre de l'Europe. J'ai pu parler aux Finlandais, aux Danois, aux Allemands aussi, aux Suisses. Ça commence à bouger parce qu'il y a un changement à l'opinion publique.
Sera-t-il candidat aux européennes? À une condition, rappelle son porte-parole, que cela soit sur une liste indépendantiste unitaire. Cela n'en prend pas le chemin. À Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
En Syrie, de violents combats entre l'alliance arabo-kurde soutenue par Washington et les combattants du groupe État islamique. Il s'agit de déloger les derniers djihadistes retranchés dans leur ultime réduit de quelques kilomètres carrés dans l'est du pays. 5 à 600 terroristes qui se servent de civils comme boucliers humains. Au moins 16 personnes, dont 8 femmes et 7 enfants, ont été tuées dans ces raids de la coalition près du village de Baghouz, alors qu'ils tentaient de fuir en direction de la frontière avec l'Irak. Et dans la chute de Daesh, 355 familles sont emprisonnées dans un camp contrôlés par les Kurdes, parmi elles des Françaises et leurs enfants, d'où cet appel au secours lancé ce matin par un couple de grands-parents français pour faire rapatrier ces 3 petits-enfants âgés de 5, 3 et 1 an. Leur mère est morte et leur père, un djihadiste d'origine allemande qui vient d'être arrêté. Ses grands-parents lancent un appel au chef de l'État, Sophie Parmentier.
C'est l'appel au secours d'un couple de grands-parents désespérés, Lydie et Patrice Manin-Keda, qui viennent d'apprendre la mort de leur fille unique, Julie. Cette brillante étudiante en lettres n'avait que 26 ans. Cela faisait 4 ans qu'elle avait plaqué ses études pour partir en Syrie avec son premier mari, un Allemand devenu lieutenant de Daesh, arrêté ces jours-ci par les forces kurdes, incarcéré dans une prison de haute sécurité. Le corps de leur fille Julie a été retrouvé près de son dernier bébé, mort lui aussi, enroulé dans un tapis, sanglotent les grands-parents. Leurs 3 autres petits-enfants sont désormais livrés à eux-mêmes dans un camp du Kurdistan syrien alors qu'ils n'ont que 5 ans, 3 ans et un an, il faut les rapatrier, implorent Lydie et Patrice Manin-Keda.
Il y a urgence parce qu'ils sont encore tout petits et ils sont tout seuls. Il faut qu'ils reviennent.
Nous n'avons aucune réponse pour l'instant de l'État français. C'est pour ça que nous faisons cet appel aujourd'hui pour le retour de nos petits-enfants. Ce sont des innocents, ils n'ont pas demandé à partir là-bas ni à naître là-bas.
Ces grands-parents savent qu'une partie de l'opinion publique est contre le retour de leurs petits-enfants. Mais s'il vous plaît, monsieur Macron, c'est une question d'humanité, supplie le grand-père qui s'effondre en larmes.
Sophie Parmentier. Sommeil perturbé, troubles cardiovasculaires, difficultés de concentration s'éprouvent. Le bruit excessif des transports affecte la qualité de vie et la santé. 90% des habitants d'Île-de-France sont concernés par ces chiffres de l'observatoire Bruit-Parif. Alors autant dire que la perspective d'un nouveau terminal à Roissy est anxiogène pour les riverains. Y aura-t-il un jour une ZAD autour de Roissy comme il y a eu Notre-Dame-des-Landes? La concertation en tout cas démarre ce mardi pour 3 mois. D'un côté, Roissy, promis à la saturation en 2024 et qui veut jouer dans la cour des grands aéroports mondiaux avec 40 millions de passagers en plus chaque année. De l'autre, les habitants de 480 communes, dont Paris, des habitants très inquiets pour leur qualité de vie. La concertation s'annonce enflammée, Célia Kiré.
Imaginez, lorsque ce nouveau terminal sera construit en 2037, ce sera exactement comme si l'aéroport d'Orly venait s'intégrer à celui de Roissy. Pas de nouvelles pistes, mais un aérogare beaucoup plus grand et 50% de passagers en plus. Françoise Brochot habite près d'Enghien-les-Bains. Pour elle, ce nouvel aérogare est déjà un cauchemar. Elle préside l'association de défense contre les nuisances aériennes.
On nous prévoit à terme 36% de mouvements d'avions en plus. Donc c'est énorme, ça va faire 500 avions au quotidien en plus à supporter. Là actuellement on a une moyenne de 1300 avions par jour, on va passer à 1800 avions par jour à terme quand le terminal sera à sa pleine capacité.
Des problèmes de sommeil, de tension, de stress, sans oublier la pollution face à toutes ces nuisances, la directrice de l'environnement d'Aéroports de Paris, Amélie Lumeau, tente de rassurer.
Notre engagement c'est effectivement de stabiliser le niveau de bruit par rapport à 2014 pour le trafic aérien autour de Roissy-Charles-de-Gaulle, grâce à l'amélioration des progrès technologiques des avions sur la qualité de l'air, sur les émissions au sol, on s'attend à une baisse en valeur absolue entre aujourd'hui et 2037. Donc on est vraiment sur une amélioration réelle.
La concertation est prévue jusqu'au 12 mai. Pour le moment, les riverains ne prévoient pas d'action illégale, mais des manifestations peut-être si le projet n'évolue pas.
Le festival de musique contemporaine, à présent, il s'installe à la Maison de la Radio jusqu'au 17 février pour cette 29e édition. 15 concerts, 38 compositeurs, une dizaine de créations françaises, 20 créations mondiales commandées par Radio France, avec un compositeur à l'honneur cette année, Wolfgang Grimm. Un festival, Stéphane Capron, pour aiguiser la curiosité et l'oreille à la musique contemporaine.
Pour le concert inaugural, Radio France a fait le choix d'inviter un grand pianiste, Bertrand Chamaillou. Spécialiste de Ravel, Chopin, Liszt, il fait partie de ces artistes qui défendent la création contemporaine. Chez lui, c'est même carrément dans son ADN.
J'ai toujours défendu le répertoire contemporain, on va dire plutôt les classiques du Grand Port, hein, les Boulez, les Nono, les Stockhausen, etc. Depuis quelques temps, j'ai décidé de me rapprocher vraiment des compositeurs d'aujourd'hui. Ça donne en tout cas ce côté, je dirais, non figé de la partition. C'est cette idée, en tout cas, à un moment donné, de faire quelque chose avec des oreilles neuves.
Parmi les œuvres créées ce soir, il y en a une de l'Argentin Martin Matalon pour 3 pianos et 3 percussions, Atomization, Loop and Freeze. Et l'avantage de la musique contemporaine, c'est que les compositeurs sont là pour expliquer leur partition.
Le loop, pour moi, c'est un peu une espèce de maelstrom qui se met en marche. L'atomisation, ça représente un peu l'espace, l'éclatement. Et puis le freeze, c'est l'absence de mouvement. Alors, j'aimais dans ce titre cette dynamique qu'il y a.
C'est Martin Matalon qui dirigera le concert ce soir, au cours duquel Bertrand Chamaillou jouera une pièce de l'allemand Wolfgang Grimm, le compositeur à l'honneur du festival.
La musique contemporaine à l'honneur à la Maison de la Radio jusqu'au 17 février. Un mot de football, le PSG dispute ce soir son 8e de finale aller de Ligue des Champions sur le terrain de Manchester United. Le PSG sera fortement handicapé par l'absence de Neymar. Le Brésilien est blessé au pied depuis 3 semaines et puis Edinson Cavani et Thomas Meunier sont également absents.
Merci Laurence Thomas. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo à toutes jambes avec Bleuforêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, pruneau rouge, de toutes les couleurs. Fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et pas mal de brouillard, de grisaille ce matin, Marie-Pierre.
Oui, Nicolas, c'est à cause de l'anticyclone qui regonfle et qui se positionne sur l'Europe et qui donne dans cette saison de nombreux brouillards, donc bien denses, notamment de la région lilloise au Val-de-Saône, mais aussi de Rennes ou vers Poitou au centre en descendant vers le Pays Basque, vers la Garonne et l'Occitanie. Et puis sur les massifs, en revanche, vous aurez une matinée bien ensoleillée comme autour de la Méditerranée, mais au prix d'un bon vent soufflant jusqu'à 80 km/h. Et puis ce matin, c'est le retour des gelées, moins 3 en Champagne, dans la Meuse, dans le Loir-et-Cher, ou dans la Nièvre, moins 2 au Mans, à Dijon, Poitiers, Guéret ou en Lozère. Le soleil se lève avec 2 petits degrés à Paris, à Quimper, à Bordeaux et 4 à Montpellier.
Soleil plus généreux cet après-midi.
Et oui, excepté quand même au nord de la Seine et vers le nord-est où la grisaille va quand même s'accrocher. Le soleil va s'imposer largement ailleurs et sur tous les massifs et ça va continuer comme ça au moins jusqu'au week-end prochain. Et en journée, le mercure aura du mal à monter. Hein. Dans le nord-est, pas plus de 4 sur le plateau de Langres, 5 en Lozère, 6 à Nancy et à Beaufort, pas plus de 9 à Lille, à Paris, Clermont-Ferrand et Aix-les-Bains. Comptez 12 à Nantes et à Bayonne, 13 à Biarritz, à Marseille, 16 à Bastia et 17 à Perpignan.
Marie-Pierre Planchon, merci.